Le magazine des Nations Unies. La communauté internationale bronquille encore l'option militaire contre les FDLR. Si les FDLR ne désarment pas d'ici le 2 janvier 2015, ils subiront la loi de la force. Propos des envoyés spéciaux de l'ONU et de l'Union africaine, mercredi dernier à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. 320 millions de dollars, c'est le montant récolté à ce jour auprès des partenaires dans le cadre du plan d'action humanitaire 2014. Moustapha Soumaré, coordonnateur humanitaire en RDC, qui est l'invité du magazine des Nations Unies de ce dimanche, nous en dira plus. Enfin, dans notre rubrique décryptage, et toujours dans le cadre de la Journée des Nations Unies, un expert du PNUD va nous entretenir sur les objectifs du millénaire pour le développement.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire du magazine des Nations Unies. La question des FDLR a été débattue mercredi dernier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Les intervenants ont tour à tour repris les conclusions de la récente réunion ministérielle de la SADC et de la CIRGL à Luanda, notamment l'action militaire à appliquer aux FDLR à l'échéance du délai de 6 mois. Jean-Pierre Elali Coco a assisté à cette conférence de presse. Il nous fait le point.
Tous les intervenants ont été unanimes. Les FDLR n'ont pas respecté leurs engagements. L'option militaire est sur la table et elle doit s'appliquer à l'expiration du délai de 6 mois, c'est-à-dire après le 2 janvier 2015. Saïd Dinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, s'est réjoui de la détermination affichée à Luanda par les dirigeants de la région.
Je réjouis de la détermination qui anime les leaders de la région pour se débarrasser de façon définitive des groupes armés et des forces négatives dans la région. Et nous nous réjouissons en particulier de la décision réitérée par la réunion de Luanda qui a redit sa détermination à utiliser l'option militaire contre les forces négatives et en particulier les FDLR.
La SADC n'aurait-elle pas été impliquée pour accélérer la reddition des FDLR si, rétorque l'ambassadeur Boubacar Diarra, envoyé spécial de l'Union africaine.
La SADC s'est impliquée dès le début avec la CIRGL pour cette question. Je peux vous dire qu'après le sommet de la CIRGL du 14 août à Luanda, la SADC s'est effectivement réunie au Zimbabwe, le sommet de Victoria Falls. La SADC s'est réunie avec le comité de la Troïka élargie à la RDC et à la Tanzanie et elle a soutenu la décision d'accorder 6 mois au FDLR.
Et maintenant, il faut tirer les conséquences de cette non-reddition. Et c'est l'option militaire.
Il faut maintenant se reporter à l'engagement fait lors de cette réunion de neutraliser par la force militaire les FDLR à partir de la fin du délai de 6 mois. Cet engagement est clair. Il est dans le communiqué issu de la réunion de Luanda. Il n'y a aucune ambiguïté sur notre volonté de désarmer, d'éradiquer, de neutraliser les FDLR.
Enfin, le dialogue est politique réclamé par les FDLR avec les régimes de Kigali. Cette question n'a pas été prise en compte par la communauté internationale, a indiqué l'ambassadeur Diarra. Car pour lui, les FDLR sont considérés comme une force négative. Il faut donc le neutraliser, conclut-il.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La date du 24 octobre, célébrée Journée des Nations Unies, est aussi consacrée à l'information sur le développement. Une occasion de parler dans la rubrique décryptage des objectifs du millénaire pour le développement OMD en sigle. Pour cela, nous avons fait appel à l'expertise de M. Jean-Paul Boketsou Bofili. Il est économiste national au bureau du PNUD RDC à Kinshasa. Jean-Paul Boketsou répond ici aux questions d'Honoré Missengatalala.
Jean-Paul Boketsou Bofili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste national au PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Le 24 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée des Nations Unies, une journée consacrée en même temps à l'information sur le développement. Comment d'abord les Nations Unies définissent-elles le concept de développement pour Monsieur Tout le Monde?
Au fait, le concept de développement pour Monsieur Tout le Monde, c'est un concept qui veut tout simplement dire l'amélioration des conditions de vie. c'est-à-dire toute personne doit voir dans ses conditions de vie, que ce soit en termes de revenus, de travail, de santé et d'éducation, s'améliorer.
Donc le PNUD est là pour aider à améliorer les conditions de vie.
Exactement, le PNUD, comme son nom l'indique, le programme des Nations Unies pour le développement, il est là pour appuyer les pays pour que les conditions de leur population soient donc améliorées.
Alors, M. Jean-Paul, les Nations Unies ont justement lancé en 2000 les OMD, les Objectifs du Millénaire pour le Développement, dont l'échéance était fixée à 2015. Quels sont ces objectifs?
Je dois d'abord dire qu'en l'an 2000, tous les pays du monde au niveau des Nations Unies avaient adopté 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement pour la période de 2000 à 2015. Le premier objectif, c'est éliminer la pauvreté. Le deuxième objectif vise à assurer l'éducation primaire pour tous les enfants. Le troisième objectif, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le quatrième objectif, réduire la mortalité infantile. Le cinquième objectif vise à améliorer la santé maternelle. Le sixième objectif, combattre le VIH, SIDA, le paludisme et d'autres maladies. Le septième objectif, préserver l'environnement. Et le dernier objectif, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Le message d'abord qui est très important, c'est que depuis le programme des objectifs du millénaire pour le développement en 2000 jusqu'à ce jour, le pays a enregistré des progrès dans d'autres domaines comme l'éducation, la mortalité infantile et le VIH et le SIDA. Mais ces progrès ne sont pas encore suffisants et il nous faut encore des efforts pour faire plus.
Comment concrètement le PNUD RDC s'est impliqué dans l'atteinte de ses objectifs avec le gouvernement congolais?
Comme j'ai dit tout à l'heure, le programme du millénaire pour le développement, c'est un engagement des pays avec l'appui des organisations internationales. Le PNUD, comme tous les systèmes des Nations Unies, a appuyé les pays dans l'élaboration des politiques et surtout la mobilisation pour les OMD. Cela a permis de créer au niveau national une certaine dynamique engagée du gouvernement et de tous ses partenaires pour travailler en faveur des OMD. Particulièrement, le PNUD a appuyé le gouvernement dans l'élaboration des programmes de développement, le DCRP intérimaire, le DCRP 1, le DCRP 2, qui ont permis de faire un état des lieux et de définir les cibles pour les OMD à atteindre en 2015. Aussi, le PNUD a appuyé le gouvernement dans le suivi des OMD, parce que c'est un programme et il faut suivre pour mieux cadrer nos interventions. Dans le cadre du suivi, le gouvernement, avec l'appui du PNUD, il a produit 3 rapports de suivi, celui de 2005, 2010 et celui de 2012 qui sera publié dans ce même rythme toujours. Le PNUD a appuyé aussi le gouvernement dans l'élaboration des documents cadres d'accélération des 2 OMD, l'OMD 1C, de réduire la pauvreté et la faim, et puis l'OMD 2, l'éducation, où des progrès étaient observés, et si on redoublait d'efforts, on pouvait donc les réaliser à l'horizon 2015.
Il n'y a pas eu au niveau du groupe un programme d'appui à des projets en matière d'éducation, en matière de santé?
Vous savez, le PNUD travaille beaucoup pour la pauvreté. Le PNUD avait axé, par exemple, son programme de 2008 à 2012, sur la lutte contre la pauvreté, qui a permis de faire un certain profil au niveau des provinces et des communautés et d'engager des projets ciblés qui ont permis de réduire la pauvreté, augmenter les revenus au niveau des ménages, construire des écoles pour améliorer la santé.
Est-ce qu'on peut avoir des exemples?
En termes d'exemples de projets concrets, à la sortie de la guerre, le PNUD a appuyé beaucoup plus dans la reconstruction des écoles. Le PNUD a appuyé des programmes de vaccination, certainement en synergie avec d'autres bailleurs et d'autres agences spécialisées. Le PNUD a aussi appuyé dans la création de revenus, c'est-à-dire l'appui aux populations pour avoir des activités génératrices de revenus qui les permettent d'améliorer leurs conditions de vie.
À travers des mutuelles?
À travers des mutuelles et individuellement. C'est-à-dire ce sont des programmes qui permettent aux gens de structurer leurs activités, de construire des marchés, des ponts, des routes. Donc c'est vraiment beaucoup d'interventions que le PNUD a pu faire qui ont contribué dans l'amélioration des conditions de vie.
Jean-Paul, à une année de l'échéance des OMD, on pense à l'après 2015. Il y a de nouvelles stratégies.
Il faut que chaque pays, avec la dynamique qui s'était engagé, cette dynamique doit se poursuivre d'ici 2015. Le combat pour les OND, ce n'est pas encore fini. Il nous reste quelques jours. On doit continuer cette dynamique et on doit aussi déjà commencer à réfléchir si le programme après 2015.
Oui, au sujet de l'après-2015, justement, des consultations nationales avaient été organisées en 2012 et en 2013, évidemment avec l'appui du PNUD, pour déterminer quelle vision les populations congolaises ont elles-mêmes du développement. Quelles leçons le PNUD RDC tire-t-il des conclusions de ces consultations?
Pour rappel, c'est un programme mondial. Et la RDC était un des pays qui était choisi au niveau des Nations Unies pour organiser cette consultation. Avec cette consultation, les résidents ont pu montrer les aspirations du peuple congolais. 14 priorités ont été identifiées, contrairement aux 8 objectifs actuels. Ces priorités visent à promouvoir la bonne gouvernance, consolider la paix et lutter contre les violences, promouvoir la justice pour tous, réduire l'extrême pauvreté, réduire les risques d'insécurité alimentaire, assurer la santé pour tous, réduire la mortalité maternelle et infantile, assurer l'éducation pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, assurer un environnement durable, améliorer le cadre de vie des populations, garantir un travail décent et durable à tous, mettre en place un partenariat mondial inclusif pour le développement et enfin créer les conditions d'une croissance économique inclusive.
Donc, le PNUD est disposé à adapter son programme d'appui à ses aspirations.
Comme vous savez, la mission du PNUD, c'est d'accompagner les pays et les populations dans leurs priorités. Donc, le PNUD est disponible dans le cadre du programme post-2015 à accompagner les pays et les populations dans les priorités que eux-mêmes ils ont pu identifier.
Jean-Paul Boketchi, merci. Merci.
La prison militaire de Ndolo à Kinshasa, dotée des salles d'audience foraines, un projet réalisé avec le financement et la supervision du PNUD. Ces salles ont été inaugurées mardi dernier. Le coût des travaux de construction de ces bâtiments est évalué à 50 000 dollars américains. Le projet a également bénéficié de l'appui technique de la section de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. De Kinshasa, rendons-nous à La Haye. La juge de la chambre préliminaire de la CPI a ordonné jeudi 23 octobre la mise en liberté provisoire des Mekilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babalawandou et Narcisse Arido. Ceci après avoir rejeté le double appel de la procureure de la CPI auprès de la cour d'appel et de la cour préliminaire 2 visant à sursoir la décision de mise en liberté provisoire des 4 suspects. Et puis cet hommage de Martin Kobler au docteur Denis Mukwege. Je me réjouis de l'honneur que au docteur Denis Mukwege. Cette récompense permet de mettre en lumière son infatigable et irremplaçable combat contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux enfants et aux hommes en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel des propos du numéro 1 de la MONUSCO en faveur du docteur Mukwege après l'annonce et l'obtention par ce dernier du prix Sakharov. Ce prix est une initiative du Parlement européen et est décerné à des personnes ou à des institutions qui luttent en faveur des droits de l'homme ou la liberté d'expression.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je vous l'ai annoncé, la communauté internationale a célébré vendredi dernier la Journée des Nations Unies. À cette occasion, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC estime qu'en 69 ans, l'ONU a beaucoup fait dans la matérialisation de ses idéaux et qu'il reste encore beaucoup de défis à relever. En ce qui concerne la RDC, Moustapha Soumaré dit avoir récolté 320 millions de dollars dans le cadre du plan d'action humanitaire 2014 et ordonné la location de 20 millions de dollars pour répondre aux actions humanitaires dans l'est du pays. Monsieur Soumaré est l'invité du magazine des Nations Unies. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Moustapha Soumaré, bonjour.
Bonjour.
Ce vendredi 24 octobre, c'est la journée des Nations Unies. Que rappelle cette date pour l'Organisation des Nations Unies?
La date de ce jour correspond au jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Donc vraiment, c'est un jour au cours duquel nous devons tous nous rappeler les idéaux de paix, sécurité et des Nations Unies. Et ça nous interpelle tous pour que dans tout ce que nous faisons tous les jours, que que nous puissions faire prévaloir ces idéaux.
Oui, justement, de la publication de la Charte des Nations Unies en 1945 à ces jours en 2014, cela fait quasiment 69 ans. Le secrétaire général de l'ONU souligne dans son message cette année la nécessité de l'organisation en ces temps de crise, je le cite. Peut-on dire aujourd'hui, M. Soumaré, que l'ONU n'a pas assez fait et qu'elle a encore beaucoup de défis à relever?
Au cours de ces dernières années, en particulier cette année, le monde entier a été confronté vraiment à des défis extraordinaires, des crises un peu partout, que ce soit la crise avec les djihadistes, avec les catastrophes naturelles qui étaient liées au réchauffement climatique, que ce soit les crises des pandémies qu'on a vu maintenant, la dernière crise d'Ebola, tout ce qui se passe maintenant en Syrie, en Irak et tout, ce qui a fait que vraiment le monde aujourd'hui est confronté plus que jamais à des crises qu'elle n'avait jamais connues avant. Ce qui fait que le travail du système des Nations Unies devient aussi beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, parce que on a besoin de beaucoup plus de ressources pour ce que nous faisons, mais aussi beaucoup plus de temps qu'il nous faut pour pouvoir travailler avec le gouvernement pour que nous puissions mettre en œuvre justement ces idéaux. Donc, je ne pense pas qu'on n'a pas pu faire ce que nous avions voulu faire, mais je crois que la crise est telle que, et le secrétaire général même l'a reconnu, parce que nous allons continuer à travailler et à renforcer solidairement ce que nous sommes en train de faire.
Donc, on peut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais il reste encore beaucoup à faire.
Absolument, absolument.
Et justement, lorsque vous parlez de ces défis à relever, Ban Ki-moon aussi a appelé à plus d'engagement contre la pauvreté, la torture et beaucoup d'autres mots. Alors, la situation actuelle en République démocratique du Congo est marquée par la maladie d'Ebola à l'Équateur, et sur le plan humanitaire, bien sûr, par des nombreux déplacés dus à la guerre. Alors, la première question concerne justement Ebola. Quel est l'apport des agences et des Nations Unies dans la lutte contre cette maladie qui fait quand même des victimes?
Le dernier rapport que nous avons eu de l'Organisation mondiale de la santé et aussi du ministère de la santé ici nous montre qu'actuellement vraiment la crise d'Ebola, surtout au niveau du Rwanda, est en train d'être maîtrisée. Mais cela n'a pu se faire que parce qu'on avait quand même un leadership très fort du gouvernement à travers le ministre de la santé, et ce qui a en fait beaucoup facilité, si vous voulez, un peu l'apport du système des Nations Unies.
Et qu'est-ce que les agences ont concrètement fait? Quelle est leur contribution?
Vous savez, il y avait une réponse globale du gouvernement qui était estimée environ à 8,6 millions de dollars, pour lequel j'ai alloué, en tant que coordinateur humanitaire, 2,6 millions de dollars.
Oui.
Et en plus de ça, j'ai travaillé avec mes autres collègues du système des Nations Unies, tels que l'OMS, l'UNICEF, le PAM, etc., pour faire vraiment une coalition des partenaires, et puis la MONUSCO, qui a beaucoup contribué à la mise en place logistique de tout le camp qu'on retrouve actuellement à l'Occulaï. Pour que les Nations Unies puissent être aussi effectives, il est important qu'il y ait aussi un bon leadership au niveau du gouvernement, et c'est ce que nous avons vu vraiment dans le cadre de la crise Ebola à RDC.
Sur le plan humanitaire, plus de 80 personnes viennent d'être tuées au Nord Kivu, précisément à Beni et puis à Erinyeti. Alors, cette situation provoque un déplacement des populations vers l'Ituri. Qu'est-ce qu'on peut attendre des agents des Nations Unies, donc de l'action humanitaire que vous dirigez en République démocratique du Congo?
Je voudrais tout d'abord vraiment dire combien cette situation est regrettable, parce que nous pensons que vraiment maintenant, le Nord Kivu et puis toute la partie est de la RDC a vraiment besoin de la paix. C'est vrai que cela a provoqué un mouvement de population, et c'est dans ce contexte-là justement que les acteurs humanitaires sont en train de se mobiliser. Vous savez, nous avons identifié, et avec le gouvernement, ce que nous appelons trois points d'action. C'est justement toute cette zone du Nord Kivu, Turi et tout ça continue. Nous avons aussi identifié la zone du Masisi et aussi le Katanga. Alors donc, ce qui fait que l'action humanitaire actuelle, je viens justement en tant que coordinateur humanitaire d'ordonner la réallocation d'environ 20 millions de dollars pour répondre vraiment aux actions humanitaires, mais dans les trois zones qui ont été déjà identifiées.
Oui, Monsieur Soumaré, il y a quelques mois, je vous recevais toujours dans ces studios, c'était pour parler de l'action humanitaire pour l'année 2014. 832 millions de dollars ont été prévus, et à deux mois de la fin de l'année, est-ce que la population congolaise peut avoir une idée sur le niveau d'exécution de ces plans humanitaires?
Comme je le disais auparavant, avec les crises multisectorielles maintenant qu'on retrouve un peu partout dans le monde, il y a à peu près un besoin de 17,1 milliard de dollars nécessaires pour pouvoir répondre à toutes ces crises-là dans le monde. Vous voyez, avec cette augmentation, de la demande et de plus en plus aussi les moyens qui sont en train de baisser, vous comprenez que la République démocratique du Congo, nous devons être vraiment en compétition pas facile. Malgré cela, je voudrais quand même ici saluer et remercier les partenaires parce que sur déjà les 832 millions que nous avions demandé, nous sommes à un financement de près de 38 millions. Ça veut dire que nous sommes aux environs de 320-350 millions de dollars qui ont été donnés par les partenaires.
Mais est-ce que vous êtes satisfait de ce montant, 320 millions, c'est par rapport aux prévisions de 832 millions?
Non, ça fait 38%. Pas du tout. Je ne peux pas être satisfait en tant que coordinateur humanitaire pour ça. Et c'est pourquoi je suis en train de m'investir auprès des partenaires, aussi bien au plan national, mais je suis confiant. On ne va pas peut-être avoir les 832 millions, mais je sais que nous allons avoir plus de 38% qui ont été mobilisés jusqu'à présent.
Alors, justement, vous parlez de la mobilisation. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour mobiliser plus de fonds à 2 mois de la fin de l'année?
Vous savez, déjà, nous avons ici en République démocratique du Congo, et c'est ça qui nous aide beaucoup en fait. Nous avons vraiment un groupe de donateurs humanitaires très, très, très engagés. Et l'idée pour nous maintenant, c'est de pouvoir non seulement faire en sorte qu'eux, ils puissent augmenter leur contribution, parce qu'eux aussi, ils ont des difficultés. Parce que beaucoup de nos partenaires qui nous soutiennent ont aussi vu une baisse dans leurs ressources. Alors, l'idée, c'est de voir, parce qu'il s'agit de voir maintenant comment le partage va être fait entre les ressources qui vont être données à l'humanitaire et les ressources qui vont être données au développement. Alors, c'est pourquoi l'une des stratégies que nous sommes en train d'avoir et de faire avec le gouvernement, c'est de comment faire en sorte que nous puissions lier de façon très intime l'humanitaire au développement. Je donne un exemple. Si nous avons des moyens qui nous permettent, par exemple, dans des zones que j'ai citées, de pouvoir utiliser des ressources pour la santé, peut-être qu'il faut utiliser ces ressources-là pour mieux renforcer les centres de santé, parce que là, on crée les conditions pour la pérennité de l'action future et créer les conditions pour un développement.
Il nous reste 2 mois pour que l'année se termine.
Oui, mais nous allons faire tout ce qui est à notre possibilité pour que vraiment nous puissions mobiliser encore plus de ressources.
Monsieur Soumaré, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Plus de 160 000 dollars américains, c'est une somme collectée mardi dernier à Lubumbashi pour soutenir la campagne de l'élimination des fistules obstétricales chez les femmes et jeunes filles du Katanga. Une campagne organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec le gouvernement provincial et le soutien du Consulat général d'Afrique du Sud. Selon l'OMS, environ 6 000 femmes et jeunes filles souffrent des fistules au Katanga. Madeleine Waila était témoin de l'événement.
Pour Karine Katumbi, marraine de la santé maternelle au Katanga, les femmes et jeunes filles fistuleuses sont victimes de stigmatisation. C'est notamment des cas de divorce, de rejet et discrimination auprès de la communauté. Elles sont sujettes au sentiment de honte et de souffrance en silence. Karine Katumbi a conclu en disant que cette maladie diminue la femme physiquement, psychologiquement et économiquement. Selon l'estimation de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, environ 6 000 femmes fistuleuses sont enregistrées chaque année au Katanga. Et pour l'ONG norvégienne Hope in Action, pour que la prise en charge médicale soit correctement assurée, il faudrait environ 1 million de dollars américains et le coût pour soigner une patiente est de 700 dollars américains. Pour rappel, la précédente campagne de mobilisation des fonds avait permis de réaliser plus de 280 000 dollars américains sur les 400 000 qui étaient attendus. Ce montant a soulagé la souffrance à plus de 400 femmes dans les 8 sites où les opérations ont été organisées. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, le soin aux Nations Unies.
Glorie dit sur mon là, pour la part d'Afrique à TV et France. Ma préoccupation, c'est en rapport avec l'insécurité qu'ici, à l'est du pays, certains analystes politiques constatent malheureusement que la MONUSCO tarde ou hésite à appliquer la résolution 2098 qui, pourtant, dans l'un de ses dispositifs militaires, il est donné mandat au casque bleu de la brigade d'intervenir, de soutenir le FRDC. Pourquoi ça traîne? Merci.
Le général Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, répond à la question.
S'agissant de votre attente dans l'emploi actif, on va dire, des forces de la MONUSCO et en particulier de la brigade d'intervention, je crois pouvoir dire que je partage un petit peu votre impatience. Et ce que je vais vous dire, c'est que, un, nous sommes, comme ça a été exprimé, totalement déterminés à pouvoir exécuter totalement notre mandat. Deuxièmement, nous avons avec les autorités militaires congolaises, on va dire, les meilleures relations de manière à pouvoir être encore plus efficaces. Je peux vous assurer aussi de notre engagement à travailler sans relâche, on va dire, à rendre notre coopération, la complémentarité de nos forces, la plus efficace pour s'engager effectivement en réponse à ce qui se passe actuellement sur le terrain, aux attentes des populations et surtout à la réalisation de notre mandat qui est l'éradication de tous les groupes armés. C'est ce à quoi nous nous engageons.
Magazine de la Chanson. Portrait des Jeux.
Alors, je m'appelle Caroline Allen, mariée, mère de 3 enfants. Je suis de nationalité haïtienne. J'ai fait des études de droit avec une spécialisation en France dans la protection juridique des mineurs. Ça fait 10 ans que je travaille aux Nations Unies. J'ai travaillé d'abord à la MINUSTAH et ensuite maintenant à la MONUSCO depuis 4 ans. Et pour le moment, je suis chef de la section protection de l'enfant de la MONUSCO au bureau de Goma. Le travail que je fais tous les jours, c'est la surveillance et la communication des informations concernant les violations graves qui sont commises à l'encontre des enfants dans le contexte de la violence armée. Et pour faire ce travail de protection des enfants qui sont affectés par les conflits armés, nous le faisons en collaboration avec nos collègues de l'UNICEF, où nous collectons les informations. Grâce à nos partenaires comme les militaires, nous pouvons apporter protection dans le contexte du mandat global de la mission de protection des civils. Et pour la question de la réponse, les services qu'il faut apporter à l'enfant qui a été victime, donc c'est du ressort de l'UNICEF et de ses partenaires. Donc au fait, c'est un travail conjoint. Autre chose que nous faisons aussi, nous voulons nous assurer que toutes les sections de la MONUSCO sont intéressées à la question de la protection de l'enfant et qu'ils tiennent compte de la question des enfants dans leurs programmes et projets. Pour cela, nous avons des points focaux dans les différentes sections, produisant également des sessions de formation à l'endroit de nos collègues des Nations Unies. Un autre volet de notre travail, c'est la mise en œuvre du plan d'action qui a été signé conjointement par les Nations Unies et le gouvernement de la RDC pour mettre fin au recrutement d'enfants et aux violences sexuelles à l'encontre des enfants par les services de sécurité. Donc pour cela, ça demande beaucoup de sensibilisation chez les SRDC et nous venons à peine de mettre en place ici ce qu'on appelle le groupe technique conjoint qui comprend des institutions gouvernementales et l'équipe spéciale des Nations Unies pour que nous puissions arriver à éradiquer la question du recrutement des enfants des SRDC ainsi que la question des violences sexuelles. Autre chose, en tant qu'instance en charge des droits de l'enfant, nous contribuons à la promotion des droits de l'enfant dans la communauté. Donc, il y a des dates importantes telles que la journée de l'enfant africain, la journée internationale des droits de l'enfant. Nous contribuons à la promotion des droits de l'enfant dans la communauté. Ici, bon, je pense que c'est un petit peu difficile d'avoir du temps libre parce qu'en semaine, bon, généralement, nous travaillons tard, nous sortons du bureau très tard. Donc, on doit se faire violence pour sortir du bureau un peu tôt, de mettre en ligne, j'aime bien écouter de la musique. Alors, étant donné que je suis des Caraïbes, donc j'aime la musique caraïbienne, le compas qui est la musique haïtienne de base, ainsi que le zouk, donc ce que nous écoutons au niveau de la Caraïbe. Et évidemment, j'aime beaucoup la musique congolaise. J'aime bien Fali Ipupa, je ne peux pas chanter vraiment, mais il y en a que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a une musique qui s'appelle Zimba, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai du temps libre, donc j'aime bien écouter la rumba congolaise. Après la MONUSCO, ce qui me tente, ce serait de créer une organisation non gouvernementale dans mon pays et pour pouvoir apporter ma contribution à la prise en charge des enfants. Ça va peut-être me combler et je vais retrouver les différentes catégories de partenaires avec qui j'ai travaillé durant toute ma carrière, donc le gouvernement, les ONG et les Nations Unies.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du soutien des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Et
Et pour cette semaine, deux dates sont à inscrire dans votre agenda. Le 27 octobre, c'est ce lundi. Ce sera la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Le 2 novembre, dimanche prochain, ce sera la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Ainsi s'achève ce magazine des Nations Unies, une édition supervisée par Julien Niamouini. Jean-Pierre Elali était à la coordination. Au micro, vous avez reconnu Mireille Boukassa-Moukembi. Et la mise en onde était assurée par Paul Badianyama.